Ben, bonjour à tutti, et va qui l'émission de l'association Belleu et de l'Institut d'études occitanes de la Vaucluse. As ben par là,
Maïde Casdi.
Alors oui, à notre émission, à notre sommaire, Chantal, de qu'on aime par là.
On aime par là d'Orange, per un cas, de la principauté d'Orange,
ah.
Et du fait que Dusko s'est stade annexade, une sous Henri XII et l'autre sous Louis le XIV, qu'il m'a connu. Donc, à Castéco, la seconde annexion a eu des conséquences mais dramatiques et radicales pour la Ciuta et pour ses estagents.
Ah, d'accord. Eh bien, je vous propose d'écouter une chanson. Eh bien, parce qu'on aime parler de la principauté d'Orange à partir des Princes de Bau. Et donc, je vous propose d'écouter la chanson, Les Princes de Bau, cantada per Henri Maquet, dans le poème de Frédéric Mistral qui se sonne Calendau. Alors, un extrait de Les Princes de Bau.
D'Orange, et en fait plusieurs familles se sont succédées à la tête d'Orange au cours des siècles. On a la famille des Beaux au milieu du 12e siècle jusqu'en 1417, puis la famille franc-comtoise des Chalon-Arlé de 1417 à 1530, et enfin la famille des Nassau de 1530 à 1702. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit.
Et après, il y a l'annexion.
Jusqu'à Guillaume III.
Voilà. Jusqu'à Guillaume III qui devient roi d'Angleterre.
Voilà.
Donc, en 1550, avec la Ciutat d'Orange, qui est créée en faveur de la famille d'Ibau, et qui devint la capitale d'une principauté à Meloudré des battre monnaie accordée par l'impérateur Frédéric Ier Barberousse. Les dirigeants sont les vassaux directs et la ville donc est un fief dont Saint-Empire roumain Germanie érigit une principauté souveraine. Son territoire est entièrement enclavé Nella Conta de Venise. Ah,
donc, à l'époque, si j'ai bien compris, tu me corriges, la ville d'Orange est germanique. Hein, c'est cela. Ah. Alors, en 1393, donc plus de 140 ans après, la principauté passe par mariage à la famille des Chalons.
Voilà. En 1630, la principauté qui va passer à un époux de la famille Chalon, issu de la Lustau de Nassau. De fier, Reina, le fils d'Henri XIII de Nassau et de Claude de Chalon, mort sans descendance. Et laisse la principauté à un cousin, en ligne paternelle, Guillaume de Nassau, qui se dit Luta Citurne, 1533 et 1584. Donc, à quel Guillaume, donc, à l'âge de 11 ans, il abjura le protestantisme et va par les Pays-Bas sous le contrôle de la régente Marie de Hongrie.
Ah, donc, attends, il n'habite pas à Orange, lui?
Non.
D'accord.
Non, non. D'accord. Nassau, la famille Nassau, donc, oui. des Pays-Bas. Marie de Hongrie sort de l'empereur Charles Quint, qui est tombé souverain des Pays-Bas et rey de Castille et d'Aragon.
Ah, d'Aragon.
D'ailleurs, c'est qui va mourir, tout est douce. Marie et l'empereur. Et encore devenu adulte, Guillaume d'Orange-Nassau, devint gouverneur des Pays-Bas et rentre au service de Charles Quint, donc son oncle, qui force souvent en guerre contre la France, ouais. Et puis de son fils Philippe.
D'accord. Alors, en 1544, la maison de Nassau prend la direction de la principauté. Donc là, c'est la maison de Nassau en 1544. Et en 1551, donc 8 ans après, il y a la première annexion. Orange est occupée, la principauté est occupée par l'armée française, 1551, et elle est annexée unilatéralement par le roi Henri II. Et Orange, la principauté, est intégrée au Dauphiné. Donc c'est la première annexion. Mais...
Ça dure pas longtemps.
8 ans après, 1559.
Non, à quelle annexion va durer
8 ans.
8 ans.
En gros, ouais, à peu près 8 ans. En 1559, les traités du Castot-Cambrésis prévoient que la principauté est restituée à Guillaume. Et cette restitution a lieu peu après la mort d'Henri II sous le règne de François II. Donc voilà. Donc du coup, la principauté va repasser dans les mains de Guillaume.
Alors, faisant un cas qui remarque un passant, les princes de la dynastie de Chalon, Pierre à Castille de la Lustau de Nassau, sont dans une situation particulière, parce que rendent un ménage à l'empereur et d'un costa par si bien bourguignon et flamand, et d'un autre costa rendent un ménage au roi de France, par ses possessions en Dauphinat et Provence, mais se considère très comme souverain au titre d'Orange.
Alors,
c'est un peu tripartite. Les Chalons, Pierre et les Nassau sont donc sujets de l'empereur. L'empereur est donc
de l'empereur romain
germanique.
C'est ça.
Et actif ennemi du roi de France. Suffit de citer le nom de Guillaume, roi d'Angleterre, Guillaume XIII, le dernier prince, pour avoir une idée de son animosité. Donc, à cette conséquence toute naturelle qui est aggravée au siècle XVII par le caractère protestant de la ville, en sa majorité, que le roi occupe militairement cette principauté, souvent de fesses.
Le roi Louis XIV.
Le roi Louis XIV.
Voilà.
Et pendant des périodes longues. Il va l'occuper, mais pour pas l'annexer, et finalement, dans les grands traités qui doivent conclure, la restitution de la principauté est une des clauses qui figurent régulièrement.
Et oui, pendant 2 siècles, l'histoire d'Orange n'est faite que de tentatives d'émancipation de la domination française et d'annexion ou d'occupation temporaire par l'armée royale française. Donc c'est très compliqué dans cette période. Louis XIV occupe plusieurs fois le territoire de la principauté dans le cadre des guerres contre les Provinces Unies. Alors, les Provinces Unies, c'est la Hollande.
Oui, c'était son principal ennemi.
Voilà. Et la personnalité politique principale de la Hollande, c'est alors Guillaume III d'Orange-Nassau, qui va aussi devenir roi d'Angleterre et d'Écosse. Et donc, Louis XIV, il va occuper la principauté en 1673, en 1679, en 1690 et en 1697.
Io vi propongo, a che propos, il y a una canzone che si sfaccia, e che si sfaccia, che si suona Le Prince d'Orange, perché l'oblige d'andare alla guerra, Le Prince d'Orange, l'oblige d'andare alla guerra, ascoltate bene le parole, e donc, quand s'entourne, che naufra, e va a morire. Allora, ascoltate, donc, per Malicorne, Le Prince d'Orange.
Est allé voir son barge et va sceller mon coursier. Que maudit soit la guerre, va sceller mon coursier. Est allé voir son barge et va sceller mon coursier. Mon beau prince d'Orange, où voulez-vous aller? Que maudit soit la guerre, où voulez-vous aller? Mon beau prince d'Orange, où voulez-vous aller? Je veux aller en France où le roi m'a mandé. Que maudit soit la guerre où le roi m'a mandé. Je veux aller en France où le roi m'a mandé. Mis la main sur la bride, le pied dans l'étrier. Que maudit soit la guerre, le pied dans l'étrier. Mis la main sur la bride, le pied dans l'étrier. Je partis sain et sauf et j'en revins blessé. Que maudit soit la guerre et j'en revins blessé. Je partis sain et sauf et j'en revins blessé. De trois grands coups de lance qu'un Anglais m'a donné. Que maudit soit la guerre qu'un Anglais m'a donné. De trois grands coups de lance qu'un Anglais m'a donné. J'en ai un à l'épaule et l'autre à mon côté. Que maudit soit la guerre et l'autre à mon côté. J'en ai un à l'épaule et l'autre à mon côté. Un autre à la mamelle, on dit que j'en mourrai. Que maudit soit la guerre, on dit que j'en mourrai. Un autre à la mamelle, on dit que j'en mourrai. Le beau prince d'Orange est mort et enterré. Que maudit soit la guerre et fallait enterré. Le beau prince d'Orange est mort et enterré. L'ai vu porter en terre par quatre cordeliers. Que maudit soit la guerre par quatre cordeliers.
Parlons donc de la seconde annexion d'Orange. En 1712, après la mort de Guillaume XIII, roi d'Angleterre, Louis XIV profita des garouilles qui concernent sa succession, ainsi que d'un arrêt de conseil qui se base sur des contestations d'héritage. Et le roi, donc Louis XIV, en profite pour occuper la principauté, pour quand même beau, hein. Donc, engage une procédure, en 1713, l'année d'après, prend complètement possession de la principauté et n'encasse les protestants. Et también, le monsieur de Grignan, le gendre de madame de Sévigné, escarga de détruire le castel.
Parce que les Orangeois n'ont pas voulu le dérabat, le détruire, le castel. Et donc, le roi a appelé monsieur de Grignan, qui est en France, à Ruinal ou le Castel.
Guérignan, c'était le Dauphiné.
Le Dauphiné, ok. Et donc, est-ce qu'on m'a coqué au Rangesta? Alors, à un moment donné, a voulu también déraber le théâtre antique, mais trop grosse, d'accord? Ce qui fait qu'il n'a pas complètement déraber le théâtre antique.
Pas peur de s'attaquer au gros museo? Donc, engagea une procédure devant le Parlement de Paris qui lui reconnaît la propriété imminente sur la principauté en attribuant à cette propriété utile à Française Louise de Bourbon-Conti, l'héritier des Chalons. Mais pas per longtemps, parce que Louis XIV occupe un cas orange et l'obtient à Melou traité d'Utrecht en 1713, donc obtient la renonciation d'un autre héritier possible.
C'est qui cet autre héritier?
C'est le roi des Prusses.
Ah d'accord.
Hein, ouais. Bah, qui? Donc le traité d'Utrecht en 1713, est-ce fait que l'Oustau d'Orange Nassau renonce à cidrer sous Orange.
D'accord, donc là c'est définitif.
Et
alors, ce cas, c'est qu'en 1718,
hein, cinq ans après.
Voilà, 5 ans après, Orange va rendre, le régent rend Orange à la famille Conti.
Ah oh.
Voilà, c'est compliqué. Mais cette famille se montre telle que les habitants souhaitent de s'en débarrasser au plus tôt. Et ils finissent par l'obtenir en 1731. Il y a une réunion pour les grandes affaires à l'intendance et au Parlement du Dauphiné, et ce qui était contraire aux vœux de la population, maintien de l'état antérieur pour les privilèges. Voilà. Du coup, malheureusement, il y a maintien de l'état antérieur pour les privilèges. En 1734, la principauté d'Orange est réunie au Dauphiné. En 1793, quelques dizaines d'années après, son territoire est réuni à celui du département du Vaucluse.
Ah
ouais. Voilà. Exit 1793.
Et d'ailleurs, les protestants qui étaient en Allemagne, en Prusse, sont tournés.
Ils reviennent alors.
Ils sont tournés à la Révolution, ils sont tournés, parce que Louis XIV, ils avaient fait partie.
Mmh. Oui.
Donc, si vous voulez un résumé per le siècle des œillets de chêne.
Oui, parce que c'est compliqué.
C'est un peu compliqué. En 1712, donc, l'oreille d'Angleterre, Guillaume XIII de Nassau, mort, la principauté appartient au prince François-Louis de Bourbon-Conti. En 1713, la principauté d'Orange est annexée officiellement au royaume de France, per le traité d'Utrecht, donc, en 1718, la principauté est restituée à Louis Armand, prince de Bourbon-Conti, et puis en 1731, la principauté reste complètement et est rattaquée à la province de Dauphina, sous Louis le XV.
Et surtout le Louis XV, d'accord.
Et qu'est-ce qu'il en reste maintenant, alors, de tout ça, Chantal?
Le titre.
Il nous reste, comme dit, oui, la principauté. C'est un mot qu'on entend souvent en parlant d'Orange.
Et puis il reste le titre.
Le titre à la princesse des Hollandes.
Et il nous reste une personne, oui, la princesse d'Orange.
Le titre, là, qui est la princesse d'Orange.
Qui est vaincue en 1952, qu'il y a un arbre sur la colline d'Orange, une roure, une garrigue, sur la colline d'Orange, pour dire qu'avait encore le titre.
Donc, à l'heure actuelle, c'est la princesse héritière des Pays-Bas.
Va qui. Eh bien, je vous propose d'écouter une chanson, et qui se sonne Marie Montagne de Moussu T.
Malgré l'olive de Nio, malgré le pont d'Avignon, també la clarette de Dia, et le son système de Marcia, malgré le ciel et de Pau. Les carbonniers de Caramau, les berlingots de Carpentras et les filles de la ciutat. Mare montagna, vire campagna, entre l'Espagne et l'Italie. sel de l'océan et le muscat de Frontignan, la tarasque de Tarascon et mai la mer du Cro-Magnon. M'agrada lo vin du Carsi, le trobador du Lemosí, la Magali de Sant Canà e la filla de la ciutat. Mar e muntanya, vire campanya, el ter Espanya, el Itali, és un país, un pagarís, com es dís, Occitania.
Ale, ale, marcia, giure, marcia!
Seguimi plaini sala bella e mai li tripu de nausela a na visita Carcassona fai le deschi a Barcelona. Magado tu l'usementu e so che sabe sacundu mi paio feggi de sagla e le figlia della città. Mare e montagna, vire campagna, entere Spagna e l'Italì, es un país, un paradís, come si dis, Occitania.
Allora, marcia, marcia, marcia!
Lo Garbi Provençal, Garbi Provençal, Louvaki, Louvaki, Louvaki. Alors, quand disait, quelle expression? Il y a quelques expressions en Provençal à l'entour du mot prince. Le mot prince.
Ouais.
Est-ce gaillard comme un prince?
Il est fort.
Regarde
il
Mélo,
se porte bien,
il a une bonne mine.
Ah, voilà.
Ah, il a une bonne mine. Est-ce gaillard comme un prince? Et se porte comme un prince. Regarde l'eau à Kewes.
C'est pas la même chose.
Est-ce pas tout à fait pareil?
Ah ben, il est en forme.
Il a une bonne santé.
Voilà.
Ah. Il est en bonne santé. Hein. Ouais. Et est-ce rousse comme un prince?
Ben, il est heureux parce qu'il a tout ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut.
Il est très heureux. C'est quelqu'un de très heureux. Est-ce rousse comme un prince? Et tant bien. Est-ce vesti comme un prince?
Est-ce vesti comme un prince?
Hein? Ça veut dire qu'il est bien habillé.
En fait, les princes, ils ont tout. La santé, le bonheur, les habits, l'argent.
Le prince, donc, il est gaillard, il se porte comme un prince, il est heureux et il est bien vesti. Hein? Va qui? Et alors, une autre expression à l'entour d'oreille. L'oreille, est-ce pas son cousin? Regarde Mélo à Kew. L'oreille, est-ce pas son cousin?
Ben, c'est l'inverse. Ah, moi, je pensais que c'est l'inverse.
Il est très fier. Il est très fier.
Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il a mieux que le roi comme cousin.
L'oreille, est-ce pas son cousin?
Il a un meilleur cousin.
Regarde Mélo à Kew, travaille par l'oreille des Prusses.
Pour rien.
Comme en France.
L'oreille des Prusses.
Il travaille pour rien.
Ouais. C'est dit en français, quoi.
Ah bah oui.
Et vous savez pourquoi, ça?
Non. En fait, non.
Et parce que c'est la cause de la guerre de 1870, où les Français, ils ont perdu la guerre. Et donc, je ne sais plus ce qui s'est passé exactement, mais cette expression est arrivée.
Ça remonte à cette époque-là, donc il faudrait creuser.
Travailler pour l'oreille des Prusses devient une histoire que...
Il faudrait creuser, mais pas pour le roi de Prusse.
Va qui? Et va Valéo comme le courrier d'oreille. Regarde mes loups, à qui on va l'air comme le courrier d'oreille.
Il est pressé, donc.
Le courrier du roi. Ah
ben c'est pareil, ça, tout va très. Tout marche bien, en fait. Pour
va
le
l'air comme le courrier d'oreille.
Tout à l'heure.
Ça veut dire qu'il brûle les étapes, il va très vite.
Ah
ça.
Oui.
Il ça, brûle les étapes.
Oui.
Il brûle
très vite.
Et también, est-ce l'oreille de la fave? Regarde, je l'ai déjà dit.
Oui, bah il est roi de rien du tout. Parce que c'est le gâteau des rois.
Voilà.
Ah, je
l'oreille
me rappelle.
De la fave, ouais. En fait, c'est un chef sans autorité, quoi. Il n'a pas de pouvoir.
Oui.
Il a un pouvoir éphémère ou il n'a pas de pouvoir. Et Père Akaba, nada su linose.
Hein? Oh là là.
Nada su linose. Regarde.
Nager sur les noix.
Ouais, nada sur. Regarde à quel il nada su linose.
Il nage sur les noix.
Ça va être inconfortable.
Il nage sur les noix. Eh bien, alors là, c'est une vieille tradition qui a
ouais.
complètement disparu. Hein, ça veut dire d'abord être heureux comme un roi. Nada Sulinos. Et pourquoi être heureux comme un roi?
Ah oui.
Hein, c'est une idée d'abondance qui a été attachée dans l'Antiquité aux noix.
Mmh.
Aux noix. Et pour assurer la prospérité d'un foyer, on répandait des noix sous les pas des mariés, de la mariée, des mariés.
Comme on lance du riz aujourd'hui.
Voilà, comme on lance du riz aujourd'hui. Et il fallait marcher sur ces noix.
Ça doit être confortable.
C'est pas pratique. Ah, mais ils avaient peut-être des sabots, peut-être.
Il fallait marcher sur ces noix. Il fallait marcher sur ces noix pour assurer
la prospérité
du foyer.
Pour avoir de l'argent.
Oui. Alors, il y a une expression qui s'est dit, regarde l'eau, n'a dessus d'Einoz, et nada sur l'Einoz. Une expression de l'Antiquité, qui date de l'Empèbre. Eh bien, avant de se quitter, je vous propose d'écouter encore une canson.
Mm-hmm.
En écoutant un groupe qui se sonne Escamandre, qui est des Vedènes, et qui nous cante Siamo tutti provençaux.
Provençal,
Et bien, va qui, après le groupe Escamandre, qui sont tous les provinciaux, une éducation traditionnelle des provinciales, et bien, Esdorose se quitta. Avec par là du prince d'Orange. Hein,
des, non, de la principauté.
De la principauté d'Orange.
Je pense qu'au prince, mais.
Non, de la principauté d'Orange.
La principauté d'Orange.
À partir
de, au XVIIIe siècle, pour précisément.
À partir du prince des Baux.
Hein, oui, voilà, on a parlé du XVIIIe, essentiellement.
Et les annexions, surtout les annexions.
Ouais.
Père Louis XIV, qui est notre.
Pire. Voilà, toi qui rendais par là des annexions. Hein.
Va qui. Et Louis XIV, qui est notre pire ennemi. Hein. Même pas un ennemi.
Ah, ben c'est sûr. Héros jaloux, enfin. Héros jaloux, complètement. Quand il visita le castel et tout à coup, héros malheureux.
Parce qu'il est un des plus grands castels d'Europe.
Hein. Vas-y, la poudreuse à Orange, qui encore il n'agradable pas.
Va qui erre donc l'émission de l'association Belleu et de l'Institut d'Études Occitan de la Vaucluse. À ce ben par là.
Maïde Castille.